Il est 19h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Ça fait du bien.
On est allé à l'hôtel, on a déposé les valises, on est directement allé manger des moules frites sur la plage.
Un air de printemps en plein hiver, ce n'est pas une première, mais ça fait toujours du bien d'enlever les doudounes et les pulls. Le week-end s'annonce très doux sur la France, reportage avec quelques chanceux du côté de Deauville.
Et Anissa Haddadi va nous le confirmer dans un tout petit instant d'ailleurs. L'émotion à Pau après la mort d'un responsable de centre pour réfugiés. Il a été tué de plusieurs coups de couteau. Son agresseur présumé est un demandeur d'asile soudanais qui a été interpellé.
Après Air France, c'est au tour des comptes de Renault de plonger dans le rouge vif. Le constructeur a perdu 8 milliards d'euros l'an dernier et le Covid n'explique pas tout.
Au Royaume-Uni, la rupture entre la famille royale et le couple Harry, Meghan et consommé. Le prince Harry et son épouse perdent leurs derniers titres royaux.
La tension baisse d'un cran sur le dossier du nucléaire iranien. Washington accepte de discuter avec Téhéran. L'œil de Didier François dans ce journal.
Conversation avec un rêveur. Des scientifiques sont parvenus à entrer en contact avec des personnes en train de rêver. Eh oui, et on apprend beaucoup de choses.
Le 15 de France sous très haute surveillance depuis la multiplication des cas contacts et des contaminations au sein du staff. Et on apprend ce soir que le demi de mêlée Antoine Dupont est positif à son tour au Covid.
La météo, Anissa, on sera dans quelques secondes à Deauville. Vous nous confirmez, ce week-end, ce sera soleil et douceur.
Hein. C'est le programme effectivement pour tout le week-end et pas que. Vous verrez que la semaine prochaine s'annonce très sympa, calme et lumineuse aussi. Pour demain, nous aurons deux bémols sur le nord-ouest et le sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un peu la même chose à chaque fois. Il suffit que les températures montent pour que l'on s'imagine presque en été. Et dans certains coins de France, Isabelle, eh bien, on n'en est pas loin.
Ouais, Anissa nous dira qu'on va même frôler ou dépasser peut-être par endroits les 20 degrés. Hein. Alors, il y en a qui profitent déjà de cette douceur printanière. À Deauville, par exemple, Damien Mestre a croisé des vacanciers forcément aux anges.
La rue de la Mer ne désemplit pas. Tous ceux qui viennent d'arriver se pressent vers la plage comme Clément et Lucille. Faute de terrasse ouverte, à midi, c'est pique-nique improvisé.
Ça fait du bien.
Alors la priorité là, c'était moules frites sur la plage.
On est allé à l'hôtel, on a déposé les valises, on est directement allé manger des moules frites sur la plage.
Eux sont partis sur un coup de tête à la dernière minute, tout comme Ludovic et son fils.
Juste envie de bouger en fait, le fait d'être confiné dans un appartement là depuis plusieurs jours, ça nous a donné envie de sortir et de s'en aller quoi.
Et si en plein hiver il est difficile de se baigner, ils en profitent pour revisiter quelques classiques.
Qu'est-ce que t'es en train de faire là?
Un château de sable.
Tout au bout de la plage, il y a Philippe, lui aussi il vient d'arriver. Là, c'est chaussures de sport, bâton de marche et une foulée soutenue.
Une grande marche, ça me ressource, ça me détend. C'est comme se reconnecter à quelque chose de naturel et de profond en moi.
Ah oui, donc on peut même méditer sur la plage de Deauville.
Ici, c'est facile parce que la plage est grande, mais on peut, comme ça, dans une grande balade, se laisser aller, se laisser porter.
En tout cas, Philippe, comme tous ceux que j'ai rencontrés, ne regrette finalement pas de partir à la plage plutôt qu'au ski.
Ah, ce petit bruit de mouette et l'eau, pas loin. Damien Mestre, reportage. Prudence si vous prenez la route ce week-end. D'ailleurs, vous ne serez pas tout seul loin de là. Bison futé classe la journée de demain samedi. Orange sur tout le territoire. Il est conseillé de quitter l'Île-de-France avant 10h et d'éviter le secteur de la 43 qui relie Lyon à Chambéry entre 7h et 13h.
L'actualité de la soirée, c'est bien sûr l'agression mortelle dont a été victime aujourd'hui le directeur d'un centre pour réfugiés à Pau.
Il a été frappé de plusieurs coups de couteau. Son agresseur est un demandeur d'asile soudanais qui n'a pas réussi à obtenir le statut de réfugié. L'annonce de cette agression a plongé la ville sous choc et notamment le maire de Pau, François Bayrou.
Nous avons vu avec le ministre de l'Intérieur l'émotion des collaborateurs qui vivent doublement un choc. Un choc parce qu'ils ont perdu leurs collègues, leurs amis, leurs proches. Et un choc parce qu'ils l'ont perdu alors que précisément leur vocation est de s'occuper de ceux qui recherchent le refuge et l'asile. C'est leur vie de les prendre en charge et de les aider et c'est par l'un d'entre eux que leur collègue et ami a perdu la vie. Et donc c'est un double choc et les visages et les yeux le disaient beaucoup. Et c'est un choc pour la ville parce que c'est une association qui discrètement joue un grand rôle, précisément pour que ces situations tragiques ne montent pas en tension et en dérive et qu'on puisse s'en occuper, prendre en charge, faire en sorte que au mieux les choses se passent.
Le maire de Pau, François Bayrou, au micro Europe 1 de Benjamin Péter. La crise sanitaire, on a franchi, ça y est, le seuil du million de vaccinés. Et on parle là des personnes qui ont reçu deux injections.
Oui, en Moselle, où le variant est très présent, les chiffres de contamination sont moins inquiétants que prévu. L'étude des eaux usées d'une vingtaine de stations d'épuration ne montre pas d'explosion du virus à ce stade, indique la préfecture, qui va poursuivre les prélèvements et les analyses.
Une crise sanitaire, on le sait, qui s'accompagne bien sûr d'une grave crise économique et on en mesure de plus en plus les effets sur les grands groupes.
Après Air France, France, c'est au tour de Renault d'annoncer des pertes records, 8 milliards d'euros l'an dernier. Le constructeur paie le recul de ses ventes, mais cela s'explique aussi par les mauvaises performances de Nissan. Clément Le Saffre, comment le groupe compte-t-il s'y prendre pour rebondir ?
Eh bien, c'est fini pour la course au volume, c'est-à-dire vendre toujours plus de voitures. Ce que veut le groupe maintenant, c'est gagner plus d'argent sur chaque voiture vendue. L'an dernier, la marge a été de 3,5%, c'est beaucoup moins que chez PSA. Alors comment on y arrive ? Eh bien, en rationalisant les coûts, ça passe par exemple par un plan d'économie. Il faut aussi vendre des voitures qui font de la marge et Renault ne fait pas les choses à moitié. 24 lancements sont prévus d'ici 2025. La moitié sera des compacts et des berlines, des segments très profitables. Renault va aussi monter en puissance sur les hybrides et compte bien garder son avance sur l'électrique. Et puis le groupe veut aussi se transformer en fournisseur de mobilité. La voiture individuelle a encore de beaux jours devant elle, je vous rassure, mais elle ne peut plus être la seule solution offerte. Autopartage, livraison du dernier kilomètre, berline adaptée au service de VTC, recyclage des batteries, mais aussi modèle de financement innovant. Voilà tout le panel que va proposer Renault. Ces activités devraient générer 20% du chiffre d'affaires du groupe d'ici à 2025.
Les précisions de Clément Le Saffre du service Eco d'Europe 1. Voitures, smartphones, consoles de jeux, tablettes et même les ordinateurs portables risquent d'être plus chers cette année.
Et oui, à l'origine de ce risque inflationniste, la pénurie de semi-conducteurs, le Covid bouleverse et ralentit fortement la production mondiale. Conséquence, eh bien les fabricants ont du mal à répondre à la demande. Il est par exemple dans certains endroits et dans certains pays difficile de se procurer l'iPhone 12, la PlayStation 5 de Sony ou encore la Xbox de Microsoft.
Europe 1, 19h06. C'est la première fois qu'ils se rencontraient. Ça s'est fait par visioconférence. Le président américain Joe Biden a participé à son premier sommet international.
Oui, le G7, il a balayé beaucoup de sujets. La puissance économique chinoise, la stratégie mondiale de lutte contre le coronavirus, la relation avec les Européens, dont il veut regagner la confiance. Et aussi, il a parlé de l'Iran, Joe Biden. Les discussions ont d'ailleurs commencé entre Washington et Téhéran. Il s'agit toujours de tenter de ressusciter l'accord nucléaire signé en 2015. Par Barack Obama, mais dénoncé en 2018 par Donald Trump.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Il était temps de relancer ce dialogue. En signe de représailles, Téhéran a repris ses recherches sur la bombe atomique.
Oui, en violation de tous ses engagements, mais sans avoir à ce stade franchi le seuil du non-retour. Que ce soit dans le domaine des centrifugeuses, de l'enrichissement de l'uranium ou du stockage des matières fissiles, aucune de ces infractions n'est aujourd'hui irréversible. En revanche, cette combinaison de petites infractions place Téhéran sur une trajectoire très dangereuse et il ne faudrait pas que ça dure parce que dans quelques mois, la seule alternative qui restera sur la table pour empêcher la République islamique de se doter d'une bombe atomique, eh bien ce sera l'option militaire, ce que voudrait éviter autant que faire se peut le président Joe Biden. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu accélérer la reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis en décidant de lever tous les embargos économiques imposés par Donald Trump depuis la rupture de 2018. Le département d'État a également assoupli les règles de déplacement des diplomates iraniens en poste aux Nations Unies à New York. Et ces deux gestes symboliques forts ont d'ailleurs été annoncés hier soir devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui leur donne une portée encore plus grande, car ce sont désormais des engagements pris par Washington dans un cadre multilatéral, en étroite coordination avec ses alliés français, britanniques et allemands, mais aussi en consultation avec la Chine et la Russie.
Oui, enfin maintenant, on attend de connaître la réponse iranienne.
Absolument, la balle est clairement dans le camp de Téhéran, qui tenait absolument à ce que les États-Unis fassent le premier pas. C'est maintenant chose faite. Ça ne règle certes pas tous les problèmes, et les pourparlers seront sûrement longs avant que l'accord de non-prolifération soit encore définitivement appliqué. Mais Joe Biden a bel et bien fait la preuve qu'il était sérieux lorsqu'il affirmait vouloir rétablir la confiance entre les deux pays et offrir une nouvelle chance à une solution diplomatique. On va maintenant voir si le régime iranien était sincère quand il jurait, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qu'il annulerait immédiatement toutes ces mesures de rétorsion si les États-Unis levaient les embargos de Donald Trump.
L'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal de 19h sur Europe 1. Merci beaucoup Didier. La répression militaire en Birmanie continue et elle a fait aujourd'hui un premier mort.
Une jeune fille est décédée après avoir reçu une balle dans la tête dans la capitale administrative. Les manifestations d'ailleurs pour demander le retour de la démocratie continuent. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Rangoon, la plus grande ville du pays.
Au Royaume-Uni, rupture consommée entre la famille royale et le couple Harry-Meghan.
Oui, c'est le palais de Buckingham qui l'annonce. Le prince Harry et son épouse Meghan perdent leurs derniers titres royaux. Les ponts sont donc définitivement rompus avec la famille royale. La réaction de Stéphane Bern, grand spécialiste des têtes couronnées.
Ce n'est pas une sanction, c'est eux qui ont assumé en quelque sorte leur choix initial. Ils l'ont confirmé à la reine. Ils n'ont pas l'intention de rejoindre les rangs de la famille royale et de servir la couronne. En revanche, il reste évidemment des membres de la famille royale. Enfin, il faudrait que toute la famille mange des champignons empoisonnés pour que Harry et Meghan arrivent sur le trône d'Angleterre. Donc tout cela était très attendu. La seule chose, c'est que le prince Harry aurait aimé sans aucun doute garder quelques patronages et quelques titres honorifiques, notamment dans la Royal Air Force, puisque lui-même est l'un des membres de la famille royale qui a le plus servi son pays dans l'armée, notamment en Afghanistan ou en Irak. Mais on lui a fait savoir, et les aides de Buckingham ont été très claires, on ne peut pas être à l'intérieur et à l'extérieur, il faut choisir, c'est in or out, et visiblement c'est out.
Et oui, out, Stéphane Bern, joint par Hélène Terzian. Stéphane Bern, que vous retrouvez évidemment tous les soirs sur Europe 1, de 16h à 18h, dans son émission Historiquement Vôtre. Allez, on va faire un tour au pays des rêves, ou plutôt on va tenter d'en percer les mystères.
Hein. Des scientifiques viennent de parvenir à dialoguer avec des personnes en train de rêver. C'est une étude co-signée par une équipe américaine, allemande, française et néerlandaise. Et l'on apprend, Jean-Jacques Guéry, que les rêveurs sont lucide.
Oui, l'expérience était la suivante. Des dormeurs qui se trouvaient en phase de sommeil paradoxal et donc en train de rêver étaient interrogés par des chercheurs qui se trouvaient à côté d'eux. Une fois qu'on a dit ça, se pose un problème pratique. Comment on fait pour interviewer, pour interroger une personne qui est en train de dormir? Eh bien, on va utiliser ses sens. L'ouïe, d'abord, on lui parle ou on fait du bruit. La vue, avec des flashs lumineux, ou encore le toucher, en lui tapotant la main, par exemple. Les rêveurs avaient reçu des consignes avant de s'endormir. Ils devaient répondre en bougeant les yeux, en souriant ou en fronçant les sourcils. Exemple de question, combien font 8 moins 6? Eh bien, pour dire 2, il fallait bouger deux fois les yeux, de gauche à droite. Dans 4 cas sur 10, on a estimé qu'il y avait eu une réponse, le plus souvent correcte, mais parfois aussi quand même un peu ambiguë. Certains ont expliqué ensuite qu'ils pouvaient entendre une voix comme ça dans leur rêve, une voix qui leur parlait un peu comme une intervention divine. Reste quand même que dans la majorité des cas, il n'y a eu aucune réponse. Donc on le voit, échanger avec un rêveur est possible, mais reste quelque chose de compliqué. Mais avoir prouvé que c'est possible, eh bien, c'est une révolution pour les scientifiques. Delphine Audiette est chercheuse pour l'INSERM, à l'Institut du cerveau, et co-signataire de l'étude.
Puis ça ouvre beaucoup de perspectives intéressantes sur la recherche sur le rêve en lui-même, qui est très compliqué à étudier scientifiquement. Donc, par exemple, faire une tâche de créativité, un problème à résoudre à l'éveil sur lequel les gens butent, et leur demander de refaire la même chose en rêve pour voir si le rêve a un pouvoir créateur supérieur.
Voilà, voir si on est plus intelligent quand on rêve que dans la vie réelle. On pourrait aussi imaginer comparer le discours d'un rêveur qui décrirait son rêve en direct avec le récit qu'il en fera une fois réveillé. Ça permettra peut-être de percer encore un peu plus le mystère de l'inconscient.
Oui, et puis surtout quand on nous dira « arrête de rêvasser », on répondra « non, non, pas du tout, je travaille ». Jean-Jacques Guéry, merci.
Merci.
Le rugby, tout nouveau coup dur pour le 15 de France. Isabelle, après le staff, c'est au tour des joueurs d'être rattrapés par le Covid.
Et pas n'importe quel joueur, hein, puisqu'il s'agit du demi de mêlée Antoine Dupont qui a été testé positif. Et c'est une mauvaise nouvelle dont le 15 de France se serait bien passé en plein tournoi Destination, Axel May.
Oui, le demi de mêlée des Bleus, leur chef d'orchestre, est positif, asymptomatique. Après la belle victoire dimanche en Irlande, encadrement et joueurs avaient été testés à leur retour à Marcoussis, le quartier général des Bleus. C'est d'abord le sélectionneur, Fabien Galthié, et un membre du staff qui étaient détectés positifs, puis un autre membre de l'encadrement. Tous les joueurs, en revanche, étaient négatifs et avaient pu rentrer chez eux mercredi. Et c'est lors d'un test de contrôle, aujourd'hui, qu'Antoine Dupont a appris qu'il était à son tour porteur du virus. On ne sait pas pour l'heure si c'est le variant britannique. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'avant que Galthié apprenne sa contamination, lundi, il avait participé aux Oscars du rugby, cérémonie par visioconférence, sauf que Galthié était apparu non masqué aux côtés d'Antoine Dupont. Les Bleus sont censés se retrouver dès dimanche à Marcoussis pour préparer le troisième match du tournoi Destination face à l'Écosse. Et la question qui se pose désormais, c'est l'effectif sera-t-il un peu ou beaucoup touché par le Covid? Oui,
bon, on vérifiera ça, évidemment, on va surveiller ça tout au long de la semaine. Axel May du service des sports d'Europe 1.
Ça risque d'être compliqué, c'était journal de Christophe Lamar. On vous souhaite un bon week-end et votre week-end sera très agréable, hein, promesse d'Anissa Haddadi.
Oui, demain samedi, le temps est lumineux sur les trois quarts du pays, avec en Bretagne et sur le Roussillon toujours un ciel un petit peu plus gris avec des averses, notamment sur les Cévennes. Dimanche, le soleil s'impose généreusement sur la moitié est. À l'ouest, c'est un petit peu plus voilé, mais ça reste agréable, avec toujours des pluies sur la Bretagne. Les températures comptaient 15 à 18 degrés sur la moitié nord. Demain, nous aurons 18 degrés à Paris et jusqu'à 23 dans le sud-ouest.
On va faire des belles promenades demain, jusqu'à 18h. Merci Anissa, bon week-end à vous.